parler ici devant vous, c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi. Et oui, comme on l'a déjà dit, j'aimerais vous parler de Hippolyte, d'une réinterprétation flaubertienne d'un mythe antique. Et tout d'abord, j'aimerais encore dire que c'est un grand plaisir pour moi que Lucius Keller est ici, qui a dirigé ma thèse sur Flaubert. Et c'est celui que j'ai appris à lire. il y a une parenté entre le travail de Zébacher et de Lucius Keller. Très bien. Dans son article « Chiffres, dates, écritures, inscriptions dans Madame Bovary », Jacques Zébacher découvre déjà dans les années 70 plusieurs traces de Notre-Dame de Paris dans Madame Bovary. D'abord, Zébacher cite des dates qui jouent un rôle important dans la vie de Victor Hugo et qu'il a retrouvé dans le roman flaubertien, puis il mentionne le fait que la levrette d'Emma porte le nom de Djali, la chevrette de la Esmeralda, et que la bohémienne figure à l'autre bout du livre sur une gravure de Steuben. L'expression de la passion maternelle d'Emma, enfin, fait penser aux expansions lyriques de la sachette. C'est la citation numéro 1 sur vos feuilles. Elle, c'est-à-dire Emma, elle déclarait adorer les enfants. C'était sa consolation, sa joie, sa folie. Et elle accompagnait ses caresses d'expansion lyrique qui, à d'autres qu'à des Hionvillais, eussent rappelé la sachette de Notre-Dame de Paris. Zébacher compare encore l'ennui d'Emma devant Charles à table à celui d'Esmeralda rêvant à Phoebus devant Gringoire qui mange faute d'aimer. La cathédrale de Paris correspond pour lui à celle de Rouen, aux cloches de Quasimodo, la cloche d'Amboise. Et ce n'est pas fini. Je cite Zébacher, « Le délire de la comparaison, de l'identification, la folie de l'exhibition du sens mènerait à comparer l'aveugle et les truands, l'opération du pied beau avec le brodequin dont on torture le pied mignon de la Esmeralda. » Fin de citation. Voilà des concordances qui existent entre les deux romans. Le titre cité, Notre-Dame de Paris, la Esmeralda, Djali et la sachette, ce sont déjà des traces bien visibles. Et le lecteur de l'article est tout à fait d'accord avec Zébacher, qui remarque un peu plus bas que ce qu'il signale à la hâte et en vrac mériterait toute une étude. N'est-ce pas une invitation à continuer là où Zébacher s'est arrêté? Comme point de départ, je propose de regarder d'un peu plus près le tableau de Steuben représentant la Esmeralda qu'Emma aperçoit lors de sa visite chez le notaire. Désespérée par ses problèmes d'argent, Emma prend une résolution extrême et se rend chez Maître Guillaumin. Théodore, le domestique, lui ouvre la porte et l'amène dans la salle à manger où elle attend le notaire. C'est ici que Flaubert a accroché le tableau de Steuben. C'est la citation numéro 2. Un large poêle de porcelaine bourdonnait sous un cactus qui emplissait la niche. Et dans les cadres de bois noir, contre la tenture de papier de chêne, il y avait la Esmeralda de Steuben avec la putifère de Chopin. Il y avait la Esmeralda de Steuben. Voilà un premier problème qui se pose, car il n'y a pas une Esmeralda de Steuben. Celui-ci a représenté deux fois la belle bohémienne et des deux tableaux, Jaset a fait une gravure. Pourtant, dans le cas présent, il n'y a pas de doute de quel tableau il s'agit. On verra bientôt pourquoi. L'un des deux tableaux montre la Esmeralda dansant, un tambour de basque à la main, avec sa chèvre Djali. Ce tableau-ci a été exposé au salon de 1841. L'autre tableau a déjà été présenté deux ans plus tôt, au salon de 1839. Il se trouve aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Nantes et montre la Esmeralda légèrement habillée, assise sur son lit avec sa chèvre, oui, avec sa chèvre. Quasimodo, agenouillé dans un coin, la contemple silencieusement. C'est de ce tableau-ci que j'aimerais vous parler. Car si Emma le regardait de près, elle saurait déjà quelle scène désagréable l'attend dans les pages à venir. La scène se déroule dans la salle à manger du notaire, sous le tableau de Steuben. Voilà le tableau où vous reconnaissez tout de suite Esmeralda avec sa chèvre. Et puis, on ne voit pas très bien, mais là, dans le coin, il y a Quasimodo. Malheureusement, on ne le voit pas. Voilà. Le tableau représente une scène du quatrième chapitre du neuvième livre de Notre-Dame de Paris. Dans cette scène, Quasimodo observe la Esmeralda dans sa chambre. Il vient de la sauver de l'échafaud et elle vit maintenant chez lui, cachée dans une tour de Notre-Dame. C'est la citation numéro 3. Elle avait laissé à terre le sifflet qu'il lui avait donné. Alors, ah voilà, le sifflet, vous le voyez? Moi, je le vois. Il est là. Voilà. Oui. Elle avait laissé le sifflet, oui, qu'il lui avait donné. Cela n'empêcha pas Quasimodo de reparaître de temps en temps les premiers jours. Elle faisait son possible pour ne pas se détourner avec trop de répugnance quand il venait lui apporter le panier de provisions ou la cruche d'eau. Mais il s'apercevait toujours du moindre mouvement de ce genre, et alors il s'en allait tristement. Une fois, il survint au moment où elle caressait Djali. Il resta quelques moments pensif devant ce groupe gracieux de la chèvre et de l'égyptienne. Enfin, il dit en secouant la tête lourde et mal faite, « Mon malheur, c'est que je ressemble encore trop à l'homme. Je voudrais être tout à fait une bête. » Comme cette chèvre. Quasimodo lui a donné le sifflet qu'elle a laissé par terre, pour qu'elle puisse l'appeler en cas de danger. Peu après, au sixième chapitre du même livre, elle en aura déjà besoin. C'est au sixième chapitre que Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame, s'introduit dans la chambre de la bohémienne. Dès le début de la scène, il la harcèle sexuellement. Puis il la supplie à genoux de l'aimer et comme elle ne veut pas, il se jette sur elle et essaye de la violer. Ce n'est qu'au dernier moment que la Esmeralda arrive à se débarrasser de son agresseur et elle appelle Quasimodo à l'aide. Dans la salle à manger du notaire, Emma vit une scène tout à fait comparable à ce qui se passe dans la tour de Notre-Dame. Emma, dans le rôle de la Esmeralda, attend dans la salle à manger l'entrée de Guillaumin, alias Claude Frollo. Comme Frollo, maître Guillaumin est un vieil homme, le premier a une tête chauve, le deuxième un crâne chauve. Si Frollo vient de sortir du lit et n'a mis que son surplis, Guillaumin vient de se lever et ne porte qu'une robe de chambre. Frollo commence tout de suite à harceler la jeune femme. Je cite, « Elle sentit le long de son corps un contact qui la fit tellement frémir qu'elle se dressa réveillée et furieuse sur son séant. » Fin de citation. Le notaire, il va moins vite, mais comme son prédécesseur Frollo, il cherche tout de suite le contact corporel. Je cite, « Il s'était tourné vers elle complètement, si bien qu'il frôlait du genou sa bottine. » Fin de citation. Guillaumin couvre de baisers les mains d'Emma, je cite, « Il tendit sa main, prit la sienne, la couvrit d'un baiser vorace, puis la garda sur son genou et il jouait avec ses doigts délicatement, tout en lui comptant mille douceurs. » Fin de citation. Frollo couvre de baisers non pas les mains, mais les épaules de la Esmeralda. « Grâce, grâce !» murmura le prêtre en lui imprimant ses lèvres sur les épaules. Comme la bohémienne se défend, Frollo recourt à la force. Je cite, Elle sentit une main lascive s'égarer sur elle. Fin de citation. Des mains de Guillaumin, on lit que, je cite, elle s'avançait dans la manche d'Emma pour lui palper le bras. Elle sentait contre sa joue le souffle d'une respiration haletante. Fin de citation. Et tous les deux, Frollo et Guillaumin, utilisent presque les mêmes mots pour attirer l'amour de l'aimé. Mais grâce, aime-moi, dit Frollo. De grâce, restez, je vous aime, gémit Guillaumin. Cependant, les deux femmes ne cèdent pas, et vers la fin du roman, la Esmeralda se trouve devant l'alternative. L'alternative. La tombe ou mon lit, dit Frollo. Emma connaît son choix et déclare courageusement à l'important Guillaumin, je suis à plaindre, mais pas à vendre. Même si plus tard, quand elle rendra visite à Binet, elle est sur le point de changer d'avis, ici, chez le notaire, elle préfère encore clairement la mort à la prostitution. En attendant dans la salle à manger de Guillaumin, où elle aperçoit le tableau de Steuben, Emma ignore encore qu'elle se trouve à ce moment-là dans la même situation que la belle bohémienne sur la gravure. Le tableau montrant la Esmeralda dans sa chambre juste avant qu'elle ne soit harcelée par Frollo fonctionne ici, dans la salle à manger du notaire Guillaumin, comme une introduction à la scène qui ne se jouera que quelques lignes plus bas au-dessous de ce même tableau. La gravure situe la scène de Notre-Dame de Paris à laquelle Flaubert fait allusion. Pour la visite chez le notaire, Flaubert s'est inspiré de Hugo, et pourtant, on a l'impression que l'image qu'il nous dessine de son héroïne n'est pas très fidèle à l'original hugolien. Pour Emma, Flaubert s'est plutôt inspiré de la Esmeralda telle qu'elle est montrée sur le tableau de Steuben. Comme la jeune fille du tableau, Emma n'est pas la copie parfaite de la chaste bohémienne. Si Hugo, dans le chapitre consulté, insiste une fois de plus sur la pudeur de la Esmeralda qui prend pour s'habiller des précautions excessives afin d'éviter les regards indiscrets, Steuben, par contre, peint l'image d'une jeune fille dont la pose suggestive transforme le spectateur en voyeur. La chasteté n'est pas non plus le point fort d'Emma. C'est avec ses amants, Léon et Rodolphe, qu'elle se livre à la débauche. Dans le tableau de Steuben, elle regarde son image reflétée en miroir. Une image bien éloignée de son idéal hugolien. Si, jusqu'ici, nous nous sommes intéressés à un tableau nommé dans Madame Bovary, représentant une scène de Notre-Dame de Paris, à présent, nous nous intéresserons à une scène de Madame Bovary que l'on trouve représentée dans un tableau de Notre-Dame de Paris. Je veux parler de l'église et non pas du roman. Mais procédons pas à pas. Dans le 11e chapitre de la deuxième partie, Charles aimerait guérir le valet d'écurie, Hippolyte, de son pied beau. L'opération échoue et c'est le spécialiste Canivet qui, enfin, amputera le pied maltraité du pauvre Hippolyte. L'amputation d'Hippolyte s'annonce déjà dès la première mention du valet d'écurie dans le texte. Juste avant l'arrivée des Bovary à Yonville, Madame Lefrançois dit à sa bonne Artémise d'appeler le valet. C'est la citation numéro 4. Artémise, cria la maîtresse d'auberge, casse de la bourrée, emplis les carafes, apporte de l'eau de vie, dépêche-toi. Au moins si je savais quel dessert offrir à la société que vous attendez. Bonté divine, les commis du déménagement recommencent leur tintamarre dans le billard. Et leur charrette qui est restée sous la grande porte, l'hirondelle est capable de la défoncer en arrivant. Appelle Polyte pour qu'il la remise. Appelant son valet d'écurie Polyte, Madame Lefrançois coupe la première syllabe, oserais-je dire le premier pied, du nom d'Hippolyte. L'amputation lexicale anticipe l'opération de Canivet. Hippolyte est un nom parlant. Il se traduit, comme l'ont remarqué Jacques Neffs et Claude Mouchard, par celui qui délie les chevaux. Et que fait un valet d'écurie si ce n'est de délier les chevaux? De plus, comme dans le cas de Charles, que l'on associe au bœuf dans Bovary, Flaubert ressort le côté chevalin d'Hippolyte. Ainsi, dans la description de son pied difforme, nous trouvons les mots équin et pied de cheval. Ses ongles des pieds ressemblent aux clous d'un fer, et quand Hippolyte court, il galope. Citation numéro 5. Il avait un pied faisant avec la jambe une ligne presque droite, ce qui ne l'empêchait pas d'être tourné en dedans, de sorte que c'était un équin mêlé d'un peu de varus, ou bien un léger varus fortement accusé d'équin. Mais avec cet équin, large en effet comme un pied de cheval, à peau rugueuse, à tendons secs, à gros orteils, et où les ongles noirs figuraient les clous d'un fer, le stréphopode, depuis le matin jusqu'à la nuit, galopait comme un cerf. Il semble bien que le nom d'Hippolyte n'ait pas porté bonheur au pauvre valet d'écurie. C'est son pied difforme qui donne à Homais et à Charles l'idée de l'opérer. Or, l'Hippolyte Flaubertien n'est pas le seul à qui ce nom légendaire a été fatal. En 1990, Frederick Pazzi, est-il américain, je crois. Je le prononce à l'américaine. Remarque déjà qu'il a existé un martyr chrétien du même nom. Voilà l'histoire de celui-ci telle qu'elle est racontée par le Larousse du XIXe siècle. Je cite, « On lit dans les actes des martyrs que saint Hippolyte, ayant été dénoncé par la foule comme étant le chef des chrétiens, fut amené devant le préfet de Rome qui, en apprenant son nom, s'écria « Eh bien, qu'il soit traité comme le fils de Thésée et traîné par des chevaux. » On amena aussitôt deux chevaux des plus farouches, on les rapprocha l'un de l'autre avec beaucoup de peine et l'on passa entre eux, au lieu de Timon, une longue corde avec laquelle on lia les pieds du saint martyr. Puis on les excita à coups de fouet et furieux, ils emportèrent le confesseur de la foi au milieu des ronces et des épines. » Fin de citation. Si Hippolyte souffre d'un pied de cheval, saint Hippolyte souffre parce qu'on attache ses pieds à des chevaux. Et si l'on regarde d'un peu plus près les pages consacrées à l'épisode du pied beau, on se rend compte qu'effectivement Flaubert, en écrivant celle-ci, a dû penser au martyr chrétien. Quand par exemple l'hôtesse du Lion d'Or s'adresse à Hippolyte souffrant après l'opération, elle utilise explicitement l'image du martyr. Citation numéro 6. « Ne l'écoute point, mon garçon, reprenait la mère le François. Ils t'ont déjà bien assez martyrisé. » Et si saint Hippolyte est dénoncé par la foule, ce sont les habitants d'Yonville qui poussent Hippolyte à se faire opérer. Citation 7. Le malheureux céda, car ce fut comme une conjuration. Binet, qui ne se mêlait jamais des affaires d'autrui, Madame Lefrançois, Artémise, les voisins, et jusqu'au maire, Monsieur Tuvache, tout le monde l'engagea, le sermonna, lui faisait honte. Le chirurgien Canivet, quant à lui, dit qu'il lui est, je cite, aussi parfaitement égal de découper un chrétien que la première volaille venue. Fin de citation. Si saint Hippolyte est condamné parce qu'il est le chef des chrétiens, le fait qu'Hippolyte soit un chrétien, en revanche, ne l'empêche pas d'être amputé. Enfin, dans le long discours de Bournisien à Hippolyte, l'ironie de la situation tragique du pauvre patient est poussée à l'extrême. Citation numéro 8. « Car, disait l'ecclésiastique d'un ton paternel, tu négligeais un peu tes devoirs. On te voyait rarement à l'office divin. Combien y a-t-il d'années que tu ne t'es pas approché de la sainte table ? » Si le curé explique l'état lamentable d'Hippolyte par son manque de foi, pour saint Hippolyte, c'est le cas contraire. Le martyr de Saint Hippolyte a été représenté par plusieurs peintres au XIXe siècle. Et nous avons sujet de supposer que Flaubert a dû connaître le tableau de François-Joseph Heim de 1822, commandé pour l'église Notre-Dame de Paris et présenté à l'exposition universelle de 1855. Jusqu'en 1862, le tableau est resté à Notre-Dame. Comme il a disparu, nous devons ici nous contenter d'une esquisse. Cependant, on distingue le tableau sur une photographie prise à l'occasion de l'exposition universelle. La photographie montre le grand salon de l'exposition des Beaux-Arts, et on y trouve une représentation claire du tableau de Heim. La photographie prouve que le tableau est resté très fidèle à notre esquisse, que je vais vous montrer maintenant. Il existe de fait des parallèles surprenants entre le tableau et la scène de l'opération du pied bot. D'abord, la description flaubertienne d'Hippolyte souffrant après l'opération correspond bien avec le saint Hippolyte tel qu'il est représenté par Heim. Dans Madame Bovary, nous lisons que le pauvre patient est pâle, qu'il a la barbe longue et les yeux caves. De plus, Charles et Homais nous rappellent les deux bourreaux du tableau quand ils bouclent le pied d'Hippolyte dans le moteur mécanique, en l'y serrant davantage. C'est la citation numéro 9. Mais à peine l'œdème eut-il un peu disparu que les deux savants jugèrent à propos de rétablir le membre dans l'appareil, et en l'y serrant davantage, pour accélérer les choses. Sachant que Flaubert s'est beaucoup intéressé au roman Notre-Dame de Paris, le fait que le tableau de Heim se soit trouvé dans l'église homonyme du roman hugolien, au moment où Flaubert a écrit Madame Bovary, suscite la curiosité. La critique a déjà remarqué qu'Hippolyte, boitant avec ses cheveux roux et sa difformité, évoquait quelque peu Quasimodo. Cependant, Flaubert trace un parallèle à un tout autre niveau, et le martyr de Saint Hippolyte lui sert de point de départ pour établir un lien solide avec le roman hugolien. Les douleurs causées par le traitement post-opératoire, le fameux moteur mécanique, suggèrent la scène de torture plus encore que le traitement médical. Au moment où son pied est serré dans l'appareil, Hippolyte est désigné par les mêmes expressions que Quasimodo lors de la scène de torture du quatrième chapitre du sixième livre de Notre-Dame de Paris. Et Hugo et Flaubert appellent leur personnage souffrant « pauvre diable ». Pourtant, Quasimodo, lorsqu'il est au supplice, n'est désigné qu'une seule fois comme « le pauvre diable ». À de rares exceptions près, il est le pauvre patient, le malheureux patient ou tout simplement le patient. Si Hippolyte nous est présenté comme une victime de la torture, Quasimodo, par contre, devient le patient, expression pouvant tout aussi bien désigner celui qui est traité par le médecin que celui qui est maltraité par le tortionnaire. C'est Canivet qui répond par une comparaison significative à la question de savoir si Hippolyte a plutôt été bien ou maltraité par les deux médecins bourreaux, Charles et Homais. Dans sa comparaison, Canivet, volontairement ou non, suggère un rapport entre Hippolyte et Quasimodo. Il compare le pied bot au bossu. C'est la citation 10. Ce sont là des inventions de Paris. Redresser les pieds bots. Est-ce qu'on peut redresser les pieds bots? C'est comme si l'on voulait, par exemple, rendre droit un bossu. Quasimodo n'est pas le seul personnage à être torturé dans Notre-Dame de Paris. Le tortionnaire Pierrat Tortru, dont le nom contient déjà l'anagramme de torture, met au supplice la Esmeralda et cette deuxième scène de torture nous ramène à Flaubert et au tableau de Haïm. La Esmeralda est soumise à la question du brodequin. Avant d'aborder cette deuxième scène de torture, je propose de lire la description de cet instrument tel que l'on la trouve dans le Larousse du XIXe siècle. Je cite « La question des brodequins se donnait de diverses façons. Le plus souvent, on enfermait les pieds, les jambes et les genoux entre quatre planches de chêne, deux en dedans et deux en dehors, que l'on attachait ensuite solidement avec plusieurs tours de corde. Cela fait, on enfonçait à coups de maillet un certain nombre de coins entre les deux planches du milieu, un aux chevilles et les autres au niveau des genoux. Il y avait quatre coins pour la question ordinaire et huit pour la question extraordinaire. La pression était si forte qu'elle broyait les chairs et faisait éclater les os. » Fin de citation. Dans Notre-Dame de Paris, ce sont Maître Charmolue et Pierrat Tortru qui enferment le pied de la Esmeralda dans l'appareil. Dans cette scène, Charmolue et Tortru sont appelés le tourmenteur et le médecin et font penser quelque peu aux pharmaciens et aux médecins qui bouclent le pied d'Hippolyte dans la fameuse machine. Chez Hugo, on lit, citation numéro 11, bientôt, la malheureuse vit à travers un nuage qui se répandait sur ses yeux approcher le brodequin. Bientôt, elle vit son pied emboîté entre les ais ferrés disparaître sous l'effrayant appareil. Alors la terreur lui rendit de la force. « Ôtez-moi cela !» cria-t-elle avec emportement, et se dressant tout échevelée, « Grâce !» Elle s'élança hors du lit pour se jeter aux pieds du procureur du roi, mais sa jambe était prise dans le lourd bloc de chêne et de ferrure, et elle s'affaissa sur le brodequin, plus brisé qu'une abeille qui aurait un plomb sur l'aile. Si l'on sait que cet effrayant appareil, ce lourd bloc de chêne et de ferrure, est un instrument de torture, on est quand même un peu surpris de voir combien il ressemble à l'appareil que Charles et Homais font construire. En effet, la description flaubertienne de la fameuse machine nous fait presque plus pâlir de peur que la description du brodequin donnée par Hugo. Citation 12. Avec les conseils du pharmacien et en recommençant trois fois, il fit donc construire par le menuisier, aidé du serrurier, une manière de boîte pesant 8 livres environ et où le fer, le bois, la tôle, le cuir, les vis et les écrous ne se trouvaient point épargnés. Fin de citation. Pour l'opération du pied bot, Flaubert, on le sait, s'est inspiré du traité pratique du pied bot de Vincent Duval. Le 7 avril 1854, il écrit à ce propos à Louise Collet. Citation 13. J'ai hier passé toute ma soirée à me livrer à une chirurgie furieuse. J'étudie la théorie des pieds bots. J'ai dévoré en 3 heures tout un volume de cette intéressante littérature et pris des notes. Charles, lui aussi, lit le traité pratique avant d'attaquer l'équin du valet d'écurie. C'est la citation numéro 14. Il fit venir de Rouen le volume du docteur Duval et tous les soirs, se prenant la tête entre les mains, il s'enfonçait dans cette lecture. Dans son article, Gustave Flaubert, apprenti orthopédiste, Florence Emtaz a montré combien nombreuses sont les traces que le traité pratique du pied bot a laissées dans Madame Bovary. Je cite Emtaz, Flaubert n'a quasiment eu qu'à recopier tant le traité fournit d'abondantes ressources. La proximité d'un texte à l'autre est telle que l'on pourrait presque considérer celui de Duval comme un avant-texte de celui de Flaubert. Une première étape, une première mouture à partir de laquelle l'écrivain a travaillé en y opérant remaniement et remise en forme. Fin de citation. Florence Imtaz montre que Flaubert suit très fidèlement les explications techniques de Duval, à une exception près. Quant à la fameuse machine, Imtaz écrit que Flaubert ne s'est pas tenu à la description donnée dans le traité pratique. Elle dit que Flaubert, décrivant l'appareil dans lequel Charles place la jambe d'Hippolyte, ne garde de quelques 8 pages de description et de croquis proposés par Duval que les termes soulignant un archaïsme impressionnant. Elle poursuit que ce mot de moteur mécanique est une pure invention de Flaubert. Nulle trace de moteur à un moment quelconque du traité. Et un peu plus bas, Imtaz ajoute encore que toute cette boîte qui impose l'image d'un appareil hermétiquement clos est peu fidèle au plan et aux illustrations fournies par Duval. Toutes ces observations mènent Imtaz à la conclusion suivante. Je cite « Bref, en quelques mots, Flaubert assimile le moteur mécanique offert par Charles à un engin de torture. L'officier de santé, en toute innocence, a soumis ce pauvre Hippolyte au supplice des brodequins. » Fin de citation. Après cette lecture, on serait tenté de croire que Flaubert, au lieu de suivre les instructions de Duval, a plutôt construit son moteur mécanique d'après la description du brodequin. Chez Hugo, c'est un effrayant appareil, un lourd bloc de chêne et de ferrure. Chez Flaubert, c'est un appareil, une manière de boîte pesant 8 livres environ et où le fer, le bois, la tôle, le cuir, les vis et les écrous ne se trouvaient point épargnés. Et si l'on compare non pas seulement les deux instruments, mais aussi les deux scènes dans lesquelles ceux-ci apparaissent, on découvre tout un réseau de liens qui les réunissent et les séparent. Avant d'écrire son opération chirurgicale, Flaubert a dû très bien lire les lignes racontant le supplice infligé à la Esmeralda, Duval ne lui ayant livré que les termes techniques. Et la scène de l'opération et la scène de torture ne durent l'une et l'autre que quelques secondes. Quand Pierre à Torteru vient de tourner la poignée, Esmeralda est déjà prête à tout avouer. C'est par l'accumulation des consonnes sourdes, P, T, K, et de la liquide R que Hugo, en une seule phrase, nous fait entendre l'horrible craquement et l'effroyable grincement du brodequin. C'est la citation 15. Pierre Rat tourna la poignée du cric, le brodequin se resserra et la malheureuse poussa un de ces horribles cris qui n'ont d'orthographe dans aucune langue humaine. Flaubert procède de la même façon. Quand Charles applique le scalpel sur Hippolyte, c'est l'accumulation des plosives sourdes P et K qui fait entendre au lecteur le craquement du tendon d'Achille. Citation 16. Charles piqua la peau. On entendit un craquement sec. Le tendon était coupé, l'opération était finie. Juste après le traitement et le pied d'Hippolyte, autant que celui de la Esmeralda, ne semble pas encore grièvement blessé. Le pied beau et la bohémienne devraient même encore être capables de danser. Avant de libérer le pied de la Esmeralda du brodequin, Charmolue lui dit « Allons, il n'y a pas grand mal, vous avez crié à temps, vous pourriez encore danser, la belle. » Et Homais écrit dans son article sur l'opération dans le fanal de Rouen que lors de la prochaine fête villageoise, il s'attend à voir figurer Hippolyte, je cite, « dans des danses bachiques au milieu d'un chœur de joyeux drilles. » Fin de citation. En utilisant le conditionnel « vous pourriez encore danser », Charmolue anticipe déjà le fait que la Esmeralda n'aura plus l'occasion de danser. Avec son aveu, la bohémienne s'est elle-même condamnée à mort, et le deuxième chapitre du sixième livre nous racontera son exécution capitale. Homais, par contre, ne peut pas encore savoir qu'Hippolyte ne dansera plus. Au moment où il écrit son article, il ignore encore que la petite opération chirurgicale aura pour conséquence l'amputation du pied du valet d'écurie. L'amputation, cependant, comme l'exécution de la Esmeralda, sera suivie par les habitants d'Yonville comme une exécution capitale. C'est la citation 17. Ce fut dans le village un événement considérable que cette amputation de cuisse par le docteur Canivet. Tous les habitants, ce jour-là, s'étaient levés de meilleure heure et la grande rue, bien que pleine de monde, avait quelque chose de lugubre, comme s'il se fût agi d'une exécution capitale. Ce jour-là, Charles n'ose pas quitter la maison. Il se tient en bas, assis au coin de la cheminée, sans feu, plongé dans des pensées noires. Citation 18. Quelle mésaventure, pensait-il. Quel désappointement. Il avait pris pourtant toutes les précautions imaginables. La fatalité s'en était mêlée. Charles n'a que trop raison d'accuser la fatalité de son malheur, car la fatalité joue un rôle important dans le roman dont Flaubert s'est inspiré pour l'opération chirurgicale. Dans la préface de Notre-Dame de Paris, on lit que le narrateur a trouvé la traduction grecque de fatalité, le mot ananke, gravé à la main dans un recoin obscur de l'une des deux tours de Notre-Dame. Et le narrateur hugolien conclut sa préface avec la phrase, citation 19, c'est sur ce mot qu'on a fait ce livre. Si Hippolyte perd son pied, c'est en effet parce que la fatalité, l'ananké hugolienne, s'en est mêlée. Charles, à son insu, a construit son moteur mécanique d'après le modèle de l'effrayant appareil avec lequel on a torturé le pied de la Esmeralda. 5 jours après l'opération, on s'aperçoit pour la première fois de la catastrophe causée par la fameuse machine. Et isolée de son contexte, la scène dans laquelle Charles et Homais examinent le pied mutilé avant de le remettre dans la boîte se lit comme une véritable scène de torture, avec le moteur mécanique dans le rôle du brodequin. C'est la dernière citation sur vos feuilles. Il se tordait, le stréphopode. Ah, j'aurais dû mettre la phrase avancée. C'est Homais qui dit « Mais que fait donc notre intéressant stréphopode ?» Il se tordait, le stréphopode. Oui, j'aurais dû mettre, c'est trop beau. Il se tordait, le stréphopode, dans des convulsions atroces, si bien que le moteur mécanique où était enfermée sa jambe frappait contre la muraille à la défoncer. Avec beaucoup de précautions, pour ne pas déranger la position du membre, on retira donc la boîte et l'on vit un spectacle affreux. Les formes du pied disparaissaient dans une telle bouffissure que la peau tout entière semblait près de se rompre et elle était couverte d'ecchymoses occasionnées par la fameuse machine. Hippolyte déjà s'était plaint d'en souffrir. On n'y avait pas pris garde. Il fallut reconnaître qu'il n'avait pas eu tort complètement et on le laissa libre quelques heures. Mais à peine l'œdème eut-il un peu disparu que les deux savants jugèrent à propos de rétablir le membre dans l'appareil en l'y serrant davantage pour accélérer les choses. Le dernier serrage de l'appareil endommage le pied au point que, plus tard, il faudra l'amputer. C'est ce moment-là où Charles et Homais bouclent le pied dans le moteur mécanique qui correspond exactement au moment où Charmolue et Torterue serrent le pied de la Esmeralda dans le brodequin. Au temps où Flaubert a écrit son roman, on trouvait encore dans l'église de Notre-Dame une scène analogue, reproduite sur le tableau de François-Joseph Heim, où les deux bourreaux lient les pieds de saint Hippolyte. Pourtant, je ne veux pas dire que Flaubert, par l'opération du pied beau, ait fait une copie de la scène hugolienne. Non, c'est pas ça. Je ne veux pas dire qu'il ait fait une copie parfaite de la torture du pied de la Esmeralda. Tout au contraire, sa scène montre plutôt le négatif de la scène hugolienne. Ensuite, d'abord, Flaubert remplace le beau pied de la Esmeralda par le pied difforme d'Hippolyte. Ensuite, les deux appareils, le moteur mécanique et le brodequin, sont construits à des fins diamétralement opposées. Si le moteur mécanique est censé guérir un pied mal formé, le brodequin, par contre, a le devoir de mal former un pied parfaitement sain. Et si l'instrument de torture chez Hugo, contre sa destination, ne fait aucun mal au beau pied de la Esmeralda, l'appareil médical flaubertien blesse le pied beau à un tel point qu'il faudra l'amputer. Flaubert renverse la scène hugolienne de la même façon qu'il a montré Emma sous le tableau de Steuben, représentant une Esmeralda lascive, loin du texte de Hugo. Si Emma, la femme adultère, incarne le contraire de la chaste bohémienne, l'opération du pied beau raconte le supplice du brodequin par son inversion. En d'autres termes, pour peindre son héroïne, Flaubert s'est inspiré du portrait de Steuben. Pour l'opération du pied beau, il s'est inspiré du tableau de Heim. Flaubert a suspendu le tableau de Steuben dans son propre roman, dans la salle à manger de Maître Guillaumin. Le tableau de Heim se trouvait encore à Notre-Dame de Paris. En 1856, notre auteur ne pouvait pas encore savoir ce qui arriverait 6 ans plus tard. Pour une fois, ce n'est pas Flaubert lui-même qui a effacé les traces génétiques de son écriture. Merci.
J'étais étonné que tu n'utilises pas les possibilités ouvertes par Butifar.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'entre la Esmeralda, il y avait la Esmeralda avec la Butifar.
Avec. Et c'est là qu'on pourrait faire le lien entre les deux histoires, hein, avec oui. Hippolyte, l'histoire de. Oui.
Plus la lecture contrastée de la chasteté d'Esmeralda inversée en lascivité,
oui.
En prostitution.
Oui, tout à fait. Et en plus, je crois que l'histoire de Butifar, si je me souviens bien, elle est racontée dans la Bible, dans Moïse 1, je crois. Peut-être je la raconte vite.
Oui. Oui.
Butifar, c'est... C'est Joseph qui a été vendu par ses frères à Putiphar, qui fait de Joseph son esclave. Et puis, c'est la femme de Putiphar qui tombe amoureuse de Joseph et qui essaie de le draguer. Et il se défend. Et puis, après, elle l'accuse, comme elle est vexée, elle l'accuse de l'avoir violé. Alors c'est exactement la même histoire que l'histoire de Phèdre qui, après avoir voulu avoir Hippolyte, l'accuse chez Thésée d'avoir voulu la violer. Et peut-être qu'il y a là quelque chose que...
En tout cas, ça ne peut pas être par hasard que,
oui, tout à fait.
Que les tableaux sont là.
Oui, hein, oui.
C'est ça. Ce qui est formidable avec ce type d'interprétation mythographique, c'est que Et c'est tout le talent d'Eddie, c'est que toutes les fonctions structurales du mythe, évidemment, sont mises au service de la lecture herméneutique et que au fond, on retrouve quelque chose qui était le charme des interprétations de l'époque structuraliste. Dans ce jeu du pour et du contre, de la symétrie, de l'inversion, du détail pour l'ensemble, mais c'est convaincant. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça complètement convaincant. Et une question. D'une œuvre d'art au mur, qui est la Minerve.
Oui.
C'est absolument formidable. Je crois qu'il y a une galerie, en effet, d'indices, de tableaux d'indices, dans Madame Bovary, qui constitue le tente de pistes, de cryptage, de pistes. Je crois que la notion de cryptage est quand même de plus en plus forte dans notre lecture de Flaubert. Et maintenant, il faudrait se demander ce qui pourrait en résulter si on appliquait les consignes ce type de lecture au manuscrit. Est-ce qu'il y a trace dans les manuscrits de ces montages? Une question, peut-être pas. Et il faut aller voir quand même, vraiment.
Oui, c'est ça. Oui. Tout à fait.
Il faut.
Oui, c'est.
On va t'offrir une semaine à Paris pour que tu puisses.
Merci beaucoup.
Mais. S'il n'y avait aucune trace dans les brouillons, est-ce que ça prouverait l'incertitude de ces. Non.
Non.
Non, parce que. C'est tout le statut de l'exogenèse mentale. C'est-à-dire qu'au fond, la connaissance que Flaubert a de Notre-Dame de Paris est une connaissance complètement intégrée à son cadre mental. Il n'a pas besoin de citer. C'est ça.
Oui, c'est. Et je crois qu'il y a même peut-être une. Gebrauchsanweisung, je ne connais pas le mot. Un mode d'emploi dans la dernière phrase prononcée par Charles, peut-être. C'est la faute de la fatalité. Si l'on remonte là, deux pages plus haut, Charles, il trouve la lettre de rupture de Rodolphe qu'il a écrite à Emma. Et dans cette lettre, Rodolphe écrit: ah, ce n'est pas ma faute en accuser que la fatalité. On voit l'écho, faute, fatalité. Hein, et puis, si l'on compare les deux scènes, les deux scènes où Claude Frollo, dans Notre-Dame de Paris, écrit, il grave à la main le mot ananké dans Notre-Dame de Paris, dans le mur. Et si l'on compare cette scène avec la scène qui raconte comment Rodolphe écrit sa lettre de rupture, on se rend compte que ce sont des scènes parallèles. Par exemple, ça c'est vraiment très très beau, je trouve, Frollo, il grave ce mot dans l'église, et puis on voit qu'il ne peut pas pleurer. Il voudrait pleurer, mais il ne peut pas parce qu'il est sec. Et Rodolphe, après avoir écrit sa lettre, il a... Oui, il dit, il aurait fallu des larmes là-dessus, mais moi, je ne peux pas pleurer. Il dit. Et paf, il prend un peu d'eau et il fait des gouttes comme ça. Et ce qui est intéressant là, je trouve vraiment, parce que ça c'est un jeu de mots, que d'ailleurs, c'est Jacques Neffs qui m'a fait remarquer cela, c'est absolument beau. Flaubert, dans sa correspondance, il appelle... Victor Hugo, le crocodile. Et dans ce cas-là, c'est vraiment des larmes de crocodile. C'est trop beau, je trouve.
Oui. Et on pourrait encore ajouter une autre chose de mystérieux, difficile à évaluer, c'est que cette lettre de Rodolphe, comment est-elle arrivée? Sous des abricots.
Oui.
Les abricots étant sûrement une métaphore sexuelle, là, en l'occurrence, pour Emma. Mais l'abricot, c'est aussi, pour Flaubert, le mot qu'il utilise pour dire le plaisir du style réussi. À un moment il dit à Ducamp quand ma phrase sera mûre, si on veut bien goûter, si on trouve bon ces abricots, alors tant mieux. Donc là il y a quelque chose probablement comme le panier d'abricots, c'est presque une métaphore de l'œuvre entière. Et il y a la lettre en dessous, avec la fatalité, les larmes de crocodile.
Oui. Ça fait beaucoup. Et en plus, ce sont des lettres grecques gravées à la main. Et puis, ces lettres grecques que Frollo a mis au mur deviennent des lettres, des lettres, écrites. Il y a cette transformation au niveau lexical. Les deux acceptions du mot lettre que Flaubert utilise pour et en même temps il y a la transformation du mot qui vient du grec et dont Flaubert donne la traduction française fatalité, et en plus c'est sur ce mot, c'est Hugo a lu, non c'est pas Hugo, excusez-moi, c'est le narrateur hugolien, il a lu un mot et c'est sur ce mot qu'il a lu, qu'il a écrit son livre, et puis c'est Flaubert qui lit ce livre et qui en fait son propre livre et qui le réduit tout à la fin de son roman à ce mot fatalité. C'est incroyable.
C'est vrai que dans la période de rédaction de Flaubert, Flaubert servait de boîte aux lettres à Victor Hugo. Et
oui, c'est vrai. En plus, oui. Ah oui, c'est vrai.
Et la notion d'inscription, alors il y a deux choses quand même qu'on pourrait noter aussi, c'est ça croise les travaux qui sont en train d'être menés par l'équipe Histoire de l'art de l'ITEM. On travaille sur le titre, sur la notion de fabrication du titre. Une des caractéristiques quand même de l'époque où cette écriture Notre-Dame de Paris et puis Madame Bovary a lieu, c'est que c'est une période qui est celle de l'émergence du titre, qui n'existait pas. Au XVIIIe siècle, il n'y a pas de titre. Il y a des inscriptions dans les tableaux. Et le cartel, c'est-à-dire l'émergence de la dénomination textuelle d'une image picturale par un titre, qui joue un rôle si important, et ici, donc, dans le rapport à l'intitulation des textes, c'est qu'une aventure qui se joue là, à ce moment-là. Et il me semble que même d'un point de vue, de l'histoire de l'apparition de ces pratiques, c'est assez important. Parce que ce qui fonctionne comme système de signes dans ton interprétation, ce sont les tableaux par leur titre dans le texte. Or, les titres des tableaux antérieurs au XVIIIe siècle, ou disons antérieurs au dernier tiers du XVIIIe siècle, sont des titres inventés après coup par la réception. Jamais ils n'ont été nommés par le peintre sous ce nom, puisque l'intitulation n'existait pas. Ce qui s'est mis à exister, c'est l'inscription à l'intérieur du tableau comme chez Poussin, par exemple, à partir du XVIIe, de ce qui est une sorte de préfiguration du titre. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est l'analogie phonétique de Notre-Dame de Paris, Madame Bovary. Il y a quelque chose.
Il y a vraiment le texte divin, Notre-Dame et Madame, le texte terre à terre.
Justement, à ce propos, je m'interrogeais sur. Vous avez, je crois, à un moment parlé du rôle négatif, ce serait un petit peu la réécriture en négatif du roman parisien. Et est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut présenter tout ce travail que vous avez fait? Est-ce que c'est vraiment un négatif ou est-ce qu'on est au contraire, au contrairement, mais plutôt quelque chose qui est de l'ordre d'un écho étouffé, provincial, je ne sais pas, le terme négatif m'a paru réducteur par rapport à tout ce que vous avez montré. Vous voyez ce que vous dites?
Je crois bien. Oui, c'est.
Parce que les résonances sont faibles. Est-ce que, négatif, ça paraît presque petit.
C'est.
Par
rapport à. Je.
À moins qu'on le prenne au sens de la fille.
Oui, mais justement, à ce sens-là, il me paraît réducteur par rapport à.
Au fond, si on dit la thèse qui est dite sur les deux ans, au fond, la thèse, c'est que Madame Bovary n'est pas le négatif, mais le positif.
Oui.
Le titre, c'est la vengeance d'un acte. Alors, la vengeance, donc celui qui l'emporte, c'est Flaubert, vis-à-vis de Hugo. Alors, dans cette perspective-là, donc, les choses changent un peu.
D'accord.
Mais malheureusement, ce livre n'est pas traduit.
Ben, il faut les traduire, oui, absolument. Ah non, mais faisons-le et publions-le en France. Non, mais vraiment, je m'engage
oui,
à m'en occuper. Si,
Moi aussi, oui, je vais commencer à traduire volontiers. Bon.
Par rapport à la question des questions positives, ce qui me paraît vraiment intéressant dans le travail là qu'il faudrait confronter vraiment au manuscrit quand même, parce qu'il y a vraisemblablement aussi tout un tas de pistes à ajouter qui entreraient dans la logique de cette écriture cryptée. On en a trouvé avec Deborah Bowles pas mal dans l'éducation sentimentale d'un peu de la même façon, mais Madame Bovary doit encore dans l'écriture au brouillon, fourmiller d'essais, de tentatives, plus ou moins abouties, mais de ce type. Et que ce soit sur le mode de la vérification, oui, on voit bien que peut-être qu'il y a des citations strictes de Hugo, on pourrait retrouver, mais peut-être qu'il n'y en a pas, mais il y a certainement des essais. Notamment au niveau du signifiant, il y a beaucoup de travail sur les homophonies et de jeux et de blagues. Parce que ce qui est intéressant, je trouve, dans ce travail, c'est que il y a l'aspect structural, je disais tout à l'heure, enfin toutes les oppositions, oui, non, blanc, noir, inverse de, etc. Mais il y a aussi, une forme de jeu, de blague. C'est vraiment un rapport à ce qui existait dans la petite communauté des copains de Flaubert comme type de relation comique, quoi. Enfin, une relation à la fois de désir de littérature, d'admiration des grands maîtres et de jeu avec les grands maîtres. Ça va de pair. Où on les désymbolise, on les fait tomber de leur piédestal pour jouer avec. Le côté blague est souvent très peu aperçu par la critique, quand même, qui souffre d'un esprit de sérieux terrible. Ce qui n'est pas le cas.
De Jean-Michel Adam, c'est dommage que je ne pourrais pas. Il existe un article, je trouve absolument formidable, de Jean-Michel Adam sur le nerf de bœuf.
Oui.
Ce qu'il fait avec le nerf de bœuf, c'est incroyable. incroyable. C'est vraiment beau à lire, c'est amusant et c'est tout à fait convaincant. C'est,
oui. Sur les dimensions sexuelles.
Oui. Et là, il commence, c'est la scène, la première rencontre de Charles et d'Emma. À la fin, c'est Charles qui demande cherchez-vous quelque chose ? Oui, ma cravache. C'est en lui tendant son air de bœuf, c'est la fin.
Ouais. Et avec plus clair.
Oui. Trop beau.
Mais c'est, moi, je suis persuadé qu'il y a énormément encore à découvrir du côté de cette blague, du côté de ce même limite. Hein, je pense que le texte le plus impeccable de Flaubert derrière est très souvent chargé de jeux de mots un peu. C'est Hugo. Hugo, quand dans les, vous vous souvenez des jeux de charade et de portrait chinois de Hugo, quand il fallait, un truc qui m'avait absolument fasciné, c'était c'est une définition extrêmement complexe de Hugo, où il était question de perversion, et dans une sorte de portrait chinois ou de jeu de mots, il s'agissait de retrouver le mot bon, simplement bon. Et alors c'était du genre, nécrophile et amateur. C'était, il fallait trouver le bon parce que bon suspendu. Je pense que Flaubert a appris ça chez Hugo. Qu'il lui renvoie la balle.
Et qu'il utilise toujours des blagues aussi, on peut dire cela, des blagues sexuelles.
Ouais. Oui.
Je crois que ça vient d'Arachné. Parce que ce que montre Arachné sur son tapis, ce sont toutes les métamorphoses que les dieux font pour séduire les hommes, par exemple, c'est qui c'est Apollo qui on l'appelle comment, oui, qui emmène Europe, oui. il se métamorphose en tour, c'est oui, excusez-moi, oui, tout à fait. Il se transforme en... Ah oui, c'est Jupiter. Ah oui, 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 c'est la... Oui, voilà, oui, c'est la métamorphosis Jovis qui devient la métamorphosis Bovis dans Madame Bovary. Oui, et toutes ces transformations, ces métamorphoses que font les dieux pour séduire les hommes, ça... Là, c'est toujours des scènes érotiques que qu'Arachné montre.
Et c'est réciproque, c'est-à-dire que le mythe grec, il nous informe sur les structures fondamentales de la pensée et de l'échange social. Quoi. Donc, c'est pas très étonnant. Des questions ? Des idées, des suggestions.
Un petit détail, en écoutant Edith Soling, on est toujours tenté de se faire soi-même un petit Edith Soling. Quand tu as lu cette scène où Maître Guillaumin s'identifie presque à Frollo et s'approche de Madame Bovary,
entendu.
Oui, mais c'est... Oui.
Frôler,
mais c'est pas quoi.
C'est pas une mutation.
Ah oui, c'est vrai.
Non, à propos de ces jeux.
Oui,
tout à fait, mais c'est...
Oui, c'est sans fin, mais c'est, on comprend bien pourquoi aussi le collège de pataphysique et Pérec et toute la tradition d'écriture comme ça est tellement passionnée par Flaubert. C'est qu'il y a une écriture qui le qui est pas double, à double dimension, mais à double réserve, mais à triple, quadruple, etc. Alors, d'autres suggestions? En tout cas, c'est excitant, hein, intellectuellement. On sent que c'est une façon de considérer la notion de source, un petit peu, de manière plus réjouissante que la critique des sources.
Est-ce que vous avez lu Jacques de Voragine, la légende, parce que là-dedans, sauf erreur, la légende de Saint-Louis, justement, est traitée d'une manière qui m'avait fait penser justement à Bovary.
Ah oui.
Malheureusement, je m'en veux énormément, mais je n'ai pas emmené avec moi. Mais il y avait vraiment des résonances.
C'est ça du tableau, hein.
Avec des détails encore plus illuminés.
Oui.
Flaubertien.
Oui. Ah, très bien. Ça m'intéresse.
Et le martyr d'Hippolyte revient dans la Tentation de Saint-Antoine.
Oui.
Dans le tablier Dernière Passion, il y a tout au milieu de ce quatrième tableau un détail que. Difficile à comprendre, et c'est vraiment, encore une fois, le mythe ou le martyr d'Hippolyte. Antoine regarde bien les pères de l'Église qui nettoient qui s'occupent des chouans. Donc c'est un détail, un petit détail qui fait ça.
Sans oublier qu'Hippolyte était le prénom de Thène.
Et Hippolyte, il s'appelle Totin. L'Hippolyte de Totin, Thènes. Mais est-ce qu'ils se sont déjà connus à cette époque-là?
Non, ben, je ne crois pas personnellement à cette époque-là, mais il ne peut pas ne pas connaître Thènes.
Oui, oui.
ils ne sont pas copains. Il peut l'avoir traité avant de le rencontrer.
Oui.
Que l'essentiel, c'est quand même que le cryptage de Piébaud, c'est le cryptage du livre de Duval, et que le livre de Duval, c'est le cryptage de l'assassinat par Flaubert de son père. Parce que Duval, c'est le seul livre où on trouve la mise en cause de la bêtise, la seule bêtise de la carrière de Docteur Flaubert. Qui s'est planté sur Piébaud. Là, le centre de vérité est quand même là. Et c'est le moins que pouvait faire Flaubert pour se venger de sa main brûlée, sa main droite brûlée par son père.
Je voulais simplement dire que dans la mythologie, le personnage mythologique au pied blessé, c'est lui.
C'est quand même une des questions lourdes de l'enfance de Flaubert.
Merci.
Bon, c'est pas mal comme conclusion. Merci beaucoup. Donc, si vous pouvez venir écouter Jean-Michel Adam N'hésitez pas, je crois que c'est une belle occasion. Valentin l'a dit. Et puis, notre prochain rendez-vous, je ne sais plus, Florence, tu as la date du prochain rendez-vous le Bercien. Non, bah, vous regardez sur le site. Hein.
14 mars.
14 mars. Voilà.
Bertrand Marchal.
Ça sera Bertrand Marchal, donc le 14 mars.
Et
Sylvie Prière. Merci à tous. Et merci à toi. Comme d'habitude, salut. Ah, bah, bon, hein. Non, mais alors, je parle très sérieusement de cette histoire de traduction.